Je propose que nous passions à la troisième communication avant de, donc de lancer un débat qui sera certainement très riche. Donc, si Mme Papasoli veut venir prendre la parole. Benedetta Papasoli est professeure à l'Université Lumsa de Rome. C'est une grande spécialiste reconnue d'une question centrale pour l'histoire pour l'histoire des arts et de la musique spirituelle de l'époque moderne, puisque c'est une des grandes spécialistes des représentations de l'intériorité. Je cite deux de ses ouvrages fondamentaux, Le fond du cœur et La mémoire du cœur au XVIIe siècle, paru chez Champion en 2008. Benedetta Papasoli est aussi la traductrice des Pensées de Pascal en italien. Elle travaille en particulier sur les moralistes, et c'est notamment une spécialiste de Fénelon. Je lui passe immédiatement la parole.
Merci, Madame la Présidente. Merci à Carlos pour avoir organisé cette journée consacrée aux arts et aux vertus de la simplicité. Alors, la ligne idéale de ma communication est un trajet d'une simplicitas rhétorique vers un sermo humilis de la mystique. Et je l'avoue, ce ne sera pas un trajet, lui, simple ni direct. En fait, je m'excuse aussi d'enfreindre un peu les consignes chronologiques rigoureuses qui ont été suivies jusqu'ici. Je pense que le fait de parler en fin de journée me donne un peu la possibilité d'ouvrir, d'essayer des ouvertures ou des projections. J'articulerai mon propos en trois points. Une réflexion sur les traductions, dont l'une italienne et romaine, du cantique spirituel de Jean de la Croix. Après, un élargissement de perspective qui touchera à des traits essentiels du langage mystique, attestés par les plus humbles des grammaires, mais dans l'horizon épistémologique le plus vaste. Enfin, un bref exemplier tout romain de ce que j'appellerai un sermo humilis, où tout ne peut pas être écrit, car il arrive que le langage du corps et des choses remplace la grammaire défaillante. Le point de départ de mon parcours est le minimum absolu à partir duquel un parcours puisse démarrer, un point zéro, une absence. Je me réfère à l'un des plus célèbres vers du cantique spirituel de Jean de la Croix, où c'est précisément l'absence même de tout signe de ponctuation ou de tout verbe régent entre les deux syntagmes composant le vers qui bouleverse les attentes de lecture et qui introduit une énigme. Je prononcerai mal l'espagnol. Mi amado las montañas. Après deux strophes. Mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las insulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Comme on le sait, le cantique de Jean de la Croix ne fut pas édité en Espagne avec le reste de son œuvre. Il apparut en France en 1622 dans une traduction de René Gautier, avant même d'apparaître en espagnol. L'original espagnol sera publié presque en même temps, en 1627, au point de débattre pour savoir quelle est l'Editio Princeps, à Bruxelles et à Rome, accompagné ici d'une traduction en italien d'Alexandre de Saint-François, tandis qu'une nouvelle traduction française des œuvres de Jean de la Croix, y compris le cantique, apparaîtra en 1641, de la main de Cyprien de la Nativité de la Vierge, le poète inconnu en lequel Paul Valéry proposera de reconnaître l'un des plus parfaits poètes de France. Nous évoluons donc au sein d'un petit quadrilatère de quatre textes qui toutefois implique trois langues et en l'espace d'un peu moins de 20 ans, 1622-1641. Période où l'on assiste à la découverte tardive et à la réception européenne d'une grande œuvre poétique de 1578. La fin de la Renaissance, l'âge du baroque et l'aube d'une saison cartésienne avec sa nouvelle discipline linguistique et rhétorique sont donc les coordonnées à l'intérieur desquelles située notre lecture, qui interroge des textes, disais-je, à partir de la présence ou de l'absence d'un verbe. Confrontons en effet les traductions. Celle de Gautier, en 1622, résonnait ainsi. « Mon ami est les hauts monts, et les vallées solitaires, et les îles étrangères, les bruyants fleuves profonds, le souffle des vents amoureux. Sa nuit est plus belle encore que la blancheur de l'aurore, c'est le son harmonieux et la solitaire corde, la scène qui réjouit l'amoureux. » La traduction de Cyprien, en 1641, va jusqu'à changer le sujet de la phrase et l'être devient avoir. J'ai en mon bien-aimé les monts et les vallées solitaires, le fleuve bruyant et profond avec les îles étrangères, le souffle des plus doux zéphyrs qui rafraîchissent mes désirs. La paisible et tranquille nuit, pareille à l'aube gracieuse, la douce musique et sans bruit, la solitude harmonieuse, le souper que donne l'amour et recrée l'âme à son tour. Nous nous demanderons à ce point comment se serait comporté le poète italien. Caro mio, le montagne, le valli solitarie et ombrosette, l'isole strane e magne, l'acque sonore e schiette, il sibilo dell'aure amorosette. La notte riposata, vicino allo spuntar che fa l'aurora, l'armonia delicata, solitudine sonora, la cena che ricrea ed innamora. De sorte que ce qui saute aux yeux, c'est la façon dont, dans ce jeu de belles infidèles, la traduction italienne semble d'un côté la plus surannée, avec ses manières dolce stil novo et pétrarchiste, d'un autre côté la plus proche du caractère elliptique et parataxique du texte original, sans aucune tentative de normalisation, ni théologique, ni syntaxique, ni rhétorique, visant à reproduire le continuum mystérieux établi par Jean, dans lequel nous pourrions voir, si l'on se souvient de la leçon de Michel Foucault, un cas suprême de langue qui ne discerne pas, mais qui approche et révèle dans les choses une nature secrètement partagée. Et d'autres aspects confirment cette complicité radicale entre le texte italien et le texte espagnol, qu'il s'agisse de se faire écho l'un l'autre dans la forme métrique, la fameuse lyre composée de vers impairs de tradition italienne, facilement reprise par le traducteur, qu'il s'agisse de ne pas atténuer la dimension érotique du texte espagnol, très estompée en revanche par les traductions françaises, ou qu'il s'agisse de conserver d'improbables images, telles celles des yeux du bien-aimé dessinés dans les entrailles de l'épouse. C'est la strophe qui commence « O cristallina fuente ». Si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. O fonte cristallino, si in questi tuoi sembianti inargentati formassi repentino gli occhi desiderati che tengo nelle viscere abbozzati. Tandis que les deux traducteurs français élaborent avec élégance l'ancien topos courtois des yeux reflétés dans la fontaine, l'un Gautier ennoblissant les entrañas en poitrine que les yeux du bien-aimé font trembler, l'autre Cyprien en fond du cœur où est conservé avec grand honneur le portrait de l'époux. Donc Gautier, ô source d'eau cristalline, si dans cette onde argentine je pouvais y contempler ces yeux qui me font trembler jusqu'au fond de la poitrine. Et Cyprien, source d'un cristal précieux, si dans tes faces argentines, soudain tu formais ces beaux yeux, chéris pour leur grâce divine, que je tiens avec grand honneur portrait dans le fond de mon cœur. Le mouvement stylistique qui, de l'un à l'autre texte, s'esquisse ne laisse pas de doute. La traduction italienne, la plus ouverte aux effets de dépaysement propres au texte original, reste en arrière par rapport aux autres, dans la progression vers cette douceur et clarté de la langue sur laquelle, entre Malherbe et Descartes, plane déjà l'ombre d'une normalisation syntaxique et logique, et où affleure déjà le goût pour un grand style à tendance abstraite et amplificatrice. L'italien n'avait rien à opposer, si ce n'est des grâces d'un autre âge, et parfois une beauté sans infidélité, que j'aime à reconnaître comme une forme de simplicitas, au train assuré de cette opulence bien tempérée qui est en France tout à la fois une concession au baroque et une promesse du classicisme. Qui était donc le traducteur italien? Je dis tout de suite qu'il y a eu un beau mémoire de master sur ce sujet dans l'Institut d'études italiennes de Lugano, et l'auteur est Pamela Trincado. C'est encore un mémoire encore inédit. Je le présente brièvement, ce traducteur, pour conclure le premier point de mon exposé. Alessandro di San Francesco, au siècle Lelio Ubaldini, est né à Rome, à l'ombre du château Saint-Ange, en 1588. Carme, à la santé frêle, à la vie austère, à la vaste production ascétique, il avait des origines illustres. Son oncle, le cardinal Alexandre de Médicis, avait voulu le dissuader d'embrasser la vie religieuse. Et une fois devenu pape, face à la fermeté de ce neveu adolescent qui continuait à refuser les honneurs, il avait, non sans chagrin, renoncé à ses projets sur lui. Le pontificat de Léon XI durera le temps d'un éclair, du 1er au 27 avril 1605, mais la voie de simplicité qu'Alexandre avait choisie durera toute une vie, avec une cohérence attestée par des biographies qui le présentent comme le parfait religieux et lo scalzo, le déchaussé par excellence. Cette voie le conduira un temps à Paris. À l'époque où le milieu des Vaux était fréquenté par Berulle et Duval, se souvenait de Benoît de Canfield et de Madame Acari, et suivait avec passion l'installation du Carmel en France. Cette voie le ramènera à Rome, au couvent de Santa Maria della Scala, où notre Carme s'adonne à une pédagogie spirituelle prudente, peu ouverte aux thématiques mystiques, s'il est vrai que, dès le titre de sa traduction de Saint Jean de la Croix, les canciones de l'âme et de l'époux sont encadrées dans la perspective de l'exercice spirituel, exercizio d'amore. D'autres ouvrages d'Alexandre de Saint-François ont le même titre, exercizio. D'autre part, ce traducteur était poète à 16 heures. Dans le style de la canzonetta, si familier à la Rome de son époque, c'est par des rimes faciles et fugitives qu'il s'adresse à son cœur, comme le fera plus tard un autre poète mystique, Pier Matteo Petrucci, avec une pathétique exhortation. Fuggi, fuggi, dolente cuore, questo cami con tanto ardore, mondo crudo, mondo spietato, mondo indegno d'essere amato. Non l'amare, cor mio, per non penare, non l'amare, cor mio, lascialo andare. Humaniste attardé qui aime les vieux mots et qui essaye de nouveaux rythmes, mystique secret qui déploie des stratégies tout ascétiques, Alexandre a effleuré Berulle ou l'école abstraite d'un côté, les fastes de la Rome baroque de l'autre, tout en conservant sa personnalité et sa culture spirituelle, un peu de la manière dont François de Sales conseille à Philothée de garder la coupe de son âme doucement et sans secousse pour ne rien verser de son baume. Mais quittons Alexandre de Saint-François et retournons, pour élargir cette fois le cadre de notre enquête, au point d'où nous sommes partis. Un vers de Jean de la Croix et l'absence d'un verbe. Le fait qu'ici la langue soit blessée, comme le dit Michel de Certeau, que l'acte du dire mystique produise des trous, est signalé par l'histoire même des éditions et des traductions. Innombrables sont celles qui comblent le vide, ne serait-ce qu'avec un signe de ponctuation, deux points par exemple, orientant vers une certaine interprétation de ce non-dit. En réalité, Jean de la Croix en avait déjà offert une dans son commentaire, vis-à-vis duquel, cependant, il est le premier à manifester une réserve, comme s'il était l'exégète incertain d'un scribe caché. En effet, Jean écrit dans le prologue de son commentaire « Ce serait vraiment faire preuve d'ignorance que de retenir que les propos d'amour en intelligence mystique puissent correctement s'expliquer à l'aide de simples mots. » L'âme amoureuse déborde, dit-il, en figure, comparaison et similitude. Elle vit, dirions-nous, dans l'âge du semblable et dans l'épistémé de l'analogie. Mais juste après, il ajoute que ces similitudes semblent être plutôt des sottises, dislates, spropositi, que des propos sensés. Elles opèrent un passage à la limite dans l'épistémé de la ressemblance, la niant au moment même où elle l'applique. Dans quel sens, donc, est-ce que l'énoncé « Mon bien-aimé, la montagne » contient une similitude ou bien est contenu dans l'ordre de l'analogie ? Le commentaire de Jean, dépourvu de tout indicateur de comparaison, déploie tout un jeu d'affirmations et de négations autour de ce verbe « être » qui apparaît et disparaît entre les lignes du texte. C'est ici qu'entre sur la scène la célèbre formule franciscaine que notre mystique cite pour en invoquer l'autorité « Deus meus et omnia ». Formule qui mériterait que l'on s'attarde sur son histoire et sur sa traduction, elle aussi incertaine et changeante. En italien « mio Dio, mio tutto », mais aussi « Dio mio e ogni cosa ». Dio mio, tutto mio, ogni cosa è mia, c'est Catherine de Gênes. Dios mio, y todas las cosas, pour Jean de la Croix. Le verbe disparaît alors, remplacé par une conjonction, et, aussi simple qu'énigmatique. Il réapparaît, ce verbe être, dans l'affirmation la plus véhémente avec laquelle Jean semble déchirer les voiles de tout épistémé de la ressemblance ou de la similitude, au nom d'une perception qu'on dirait presque panthéiste, attribuée d'autant plus à l'âme que celle-ci s'unit à son origine. Je cite, « Chacune de ces perfections dont nous parlons, c'est Dieu, et tout ensemble, elles sont Dieu. » Enfin, le verbe résurgit, modalisé dans le passage qui est la clé de voûte de l'argumentation. On ne doit pas penser que ce que sent l'âme est comme voir les choses dans la lumière ou les créatures en Dieu, mais au contraire que dans cette position, elle sent que Dieu est pour elle toutes les choses. Siente serle todas las cosas, Dios. Les variantes du commentaire avec lequel Jean et ses traducteurs tentent de définir le sens du vers duquel nous sommes partis ne me semblent pas alors insignifiantes. Les montagnes ont des cimes élevées, elles sont imposantes, immenses, attirantes, gracieuses, recouvertes de fleurs et parfumées. Estas montañas es mi amado para mí. Dans certaines traductions italiennes, nous trouvons queste montagne sono il mio amato per me. Chez Gautier, nous lisons ces montagnes c'est mon ami à moi. Chez Alexandre, encore une fois fidèle, queste montagne è il mio amato per me. De cette grammaire lacunaire, de ces phrases à l'ordre fluctuant, de ce jeu herméneutique qui met à l'épreuve les traducteurs, on pourrait inférer toute une problématique du discours mystique, qui nous amènerait à prononcer encore une fois, quoique dans une acception insolite, le mot-clé de notre colloque, simplicité. C'est une problématique du rapport entre dire et être, que l'on trouve bien exprimée dans le balbutiement d'un écrivain français du début du XVIIe siècle, Jean de Saint-Samson, quand, dans son épître à il fait dire à l'âme épouse « Que pensais-je donc faire et que pensais-je dire, puisque vous êtes tout simple en ma propre chair, n'est-ce pas tout dire ? Oui, puisque c'est tout être. Le verbe qui se fait chair est tout simple en ma propre chair. Il n'y a rien d'autre à dire alors si ce n'est être. Quelle limite, me semble-t-il, de cet exister du langage dans le monde que Foucault oppose dans son analyse de la différence entre l'épistémé de la Renaissance et celle de la post-Renaissance, au traduire le monde dans un discours qui fonctionne selon des règles. Mais une telle simplicité théologique, avant même d'être rhétorique ou poétique, implique donc un passage à la limite et se confronte avec le silence. Michel de Certeau a écrit à propos des paradoxes du langage mystique que la langue des mystiques a comme caractéristique d'être, tout au moins par rapport à l'expérience commune, un langage sans référent. Je le cite, « La révolution qui s'opère ici consiste à substituer la relation traditionnelle du mot ou du langage à une chose, avec des rapports internes au langage, c'est-à-dire avec des rapports entre termes complémentaires ou contraires. » Fin de citation. De la sorte, la chose n'est plus manifestée par et dans le mot, mais cachée en lui, donnée en celui-ci sous la forme d'un manque, comme le suggère Carlo Ossola dans son introduction à l'anthologie Mystici Italiani dell'età moderna. Or, nous avons l'habitude d'appliquer ces formules aux expressions les plus anticréaturelles du langage mystique, à sa métaphysique hardie, à sa néologie, à ses variations sur le lexique du néant. Mais en réalité, l'écart du langage mystique par rapport à la norme linguistique, tout comme la faille dans l'épistémé de l'analogie, peuvent être minimes et apparemment insignifiants. Ils peuvent se nicher dans la chute d'une virgule, dans la suppression d'un verbe. Voilà que, précisément, l'ellipse du verbe « être », la même que celle du « Deus meus et omnia » ou du « Mi amado las montagnas » transforme graduellement la prose d'un franciscain italien de la fin du XVIe siècle, Grégoire de Naples, en un fragment de délire amoureux, radicalement non discursif, où le vide du non-dire génère par contraste, par disproportion, sproposito, une nomination infinie. Je lis ce passage qui est très rare, qui se trouve dans l'anthologie des mystiques italiens de l'âge moderne. « Tu mio sole, tu mio vento, mia luna. » Je ne traduis pas parce que c'est très simple, en effet. « Tu mio saporoso frutto, mio delicato cibo, mia fresca acqua. » Tu mio desiderato letto, mia amata sedia, mio caro riposo. Tu mio cielo, mia terra, mia selva, mio bosco, mio ameno campo. Tu mio palazzo, mia casa. Tu mia città, mio fresco, mio caldo. Tu mia chiesa, mia musica, mio canto. Tu mia mano, mia penna, mia carta. Tu scrivi, in te scrivi, sei lo scritto. Tu mia bocca, mio pane, mio gusto, tu mangi, sei mangiato, tu miei occhi, mio sguardo, mio oggetto, tu risguardi, sei risguardato, tu lo stesso sguardo. Tu mia bellezza, mia ricchezza, mia vita, mia infermità, mio dolore, mia morte, tu mio riposo, mio fratello, mio parente, tu mio contento, mio affanno, tu mia veste, tu mi vesti, tu sei la veste, sei vestito. Tu mi sei ogni cosa, in te sono ogni cosa. On se souviendra bien sûr des Laudes Dei Altissimi de François d'Assise, où le martèlement du verbe être, tu es, tu es, prêche de Dieu tout bien. On se rappellera naturellement du Cantique des créatures, des grandes présences cosmiques qui rendent possible la langue de la louange, mais c'est précisément l'elliptique Deus meus et omnia que Grégoire de Naples amplifie dans la page que je viens de lire. Considérant l'univers de sa cellule à l'égal de la pièce du monde, le lointain modèle franciscain, incitant à un parler doux et humble, à un parler affirmatif et cataphatique, ont été réélaborés jusqu'à des conséquences aussi extrêmes qu'inattendues. Les figures de la ressemblance, similitude, analogie sont traversées, disloquées par le paradoxe et l'hyperbole, l'anaphore et l'allitération, l'antithèse et la tautologie, tandis que le langage mystique achève une antique ligne déjà tracée par Denis l'Areopagite, selon laquelle ce n'est pas le semblable, mais le dissemblable, le bizarre, ce qui est radicalement disproportionné, et donc également le quotidien, l'humble et le bas, qui ont le plus grand pouvoir de symboliser Dieu. Puisque tous les chemins mènent ou ramènent à Rome, revenons définitivement vers ce milieu romain où nous avait conduit d'abord l'histoire d'un carme au nom franciscain, Alessandro di San Francesco. Entre les couvents et les rues, voire les salons, surgissent des avatars de cette figure de l'illettré éclairé qui appartient à toute époque et à toute région spirituelle, mais qui se manifeste avec insistance dans l'Italie mystique de la fin de la Renaissance et de l'âge baroque. D'autre part, nous avons écouté de magnifiques choses à propos de Félix de Cantalis, qui est l'un des exemples. Les exemples de Sermo Humilis que l'on peut cueillir dans ce milieu apparaissent en fait comme la nuance extrême de cette simplicitas rhétorique que Giacomo Iori, dans la paracritique de l'anthologie des mystiques italiens de l'âge moderne, définit impeccablement comme un style qui fait montre de ses aspérités en se tenant à l'écart des manières de la poésie du siècle. Un réalisme qui passe par les choses pour s'approcher de Dieu et par le bas pour tendre au sublime. Une inculture qui rejoint par balbutiement les formules du non-savoir mystique. Une prédilection, fût-ce au milieu de pénibles efforts spéculatifs, pour l'expression affective à la limite de l'informulé. Une langue savoureuse, proche de l'oralité vernaculaire, qui demande aujourd'hui pour être lue une transcription, traduction, au sens le plus littéral du terme. Tous ces traits pourraient converger, par exemple, dans l'œuvre de Caterina Paluzzi, la sainte de Morlupo, pauvre fille qui devint la conseillère des dames romaines et la correspondante de Federico Borromeo, presque analphabète et auteur d'une autobiographie aussi illisible que fascinante. Comme on a beaucoup parlé de larmes, je ne résiste pas ici à l'envie de faire une petite digression sur une seule page de ce texte qui a été édité pour la première fois il y a 30 ans, plus ou moins. Ce sont des souvenirs d'enfance, si rares dans l'écriture de soi au premier âge moderne. La fillette abandonnée à l'ignorance, même en matière de religion, ressasse sans fin un seul motif, elle ne sait pas, elle voudrait pleurer sur la passion du Christ. Mais comme elle n'en sait rien, elle profite de la mort d'un oncle pour se retirer dans une chambre solitaire et verser des larmes, non sur l'oncle, mais sur son amour inconnu. Elle n'y parvient pas, parce que je ne comprenais pas ce que c'était. C'est alors qu'elle croit voir tout près d'elle l'homme aux douleurs, et il était d'une beauté infinie, ainsi je commençais à pleurer. Le savoir du mystère dans la kénose du quotidien et de l'enfance ne s'exprime pas par des mots, mais par les larmes. Mais pour rester fidèle au thème du Deus meus et omnia et à la trace que j'ai suivie jusqu'ici entre les traditions franciscaines et carmélitaines, je m'attarderai encore pour finir sur l'œuvre et l'aventure d'un saint franciscain, Carlo d'Assese, au cœur d'un XVIIe siècle romain qu'on dirait hors du temps et très proche du Moyen-Âge mystique. Enfant de paysans, Giancarlo Marchionne préfère le travail des champs à l'instruction et à la carrière ecclésiastique que ses parents rêvent pour lui. Franciscain, frère Lay. Il s'agenouille un jour à Rome sur la porte de l'église carmélitaine de Saint-Joseph, sans entrée, pour ne pas quitter son âne, son somarello. Et fixant l'hostie, il reçoit la grâce mystique de la transverbération du cœur. Dans le sillage de la stigmatisation de François d'Assise et de la transfiction de Thérèse d'Avila. L'opération du rayon de lumière est décrite avec des détails réalistes et sensoriels auparavant inédits. C'est un fer qui est devenu tout feu et qui est così arrosito, si pone in un, ainsi rotti, si pone in un vaso d'acqua e fa quella sorte di mormorio. Confronté brusquement à la blessure de l'indicible, le franciscain, qui racontera plus tard avec des détails si précis son expérience, n'est capable pendant plusieurs jours que de s'exprimer par la figure la plus élémentaire et la plus chère au baroque des humbles, à savoir la répétition, l'accumulation. Sia benedetto Dio, sia benedetto Dio, sia benedetto Dio. De l'œuvre vaste, un peu informe, de cet illettré graphomane, je retiendrai ici quelques vers qu'il a lui-même présentés comme des affetti d'amore, flèches ardentes, iacula, dont la brevitas est course, élan, hâte de joindre le bien-aimé. Natalino Sapegno et plus récemment Giacomo Iori ont montré à quel point la poésie mystique de Carlo da Sezze témoigne d'une réception tardive de Jacopone da Todi, dont elle reproduit certains rythmes et fait sienne les errances d'une langue qui bégaye et ne sait plus parler. De cette langue à la fois alerte et entravée, je ne souligne ici encore une fois que l'emploi exorbitant de la figure de l'accumulation, non par excès de nomination, comme c'était le cas chez Grégoire de Naples, non par souci du détail, non par une convocation des créatures animées et inanimées, cosmiques et familières, mais par soustraction, abolition, amnésie, reductio ad unum. L'accumulation ne dit pas toujours la diversité du monde, elle peut être aussi, je cite une étude de Sabrina Stroppa, « approximation de l'ineffable ». Cette déclination originale du « Deus meus et omnia » se passe encore une fois de ponctuation, de verbe, de structure logique et grammaticale, tout en jouant délicatement sur la variation entre l'adjectif et le substantif, ricchissimo, ricchezza, dolcissimo, dolcezza. Si Caterina Paluzzi traduisait son savoir enfantin par des larmes, Carlo da Sezze l'exprime par le cri. Iddio, 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 Iddio mio ricchissimo, Iddio mio dolcissimo, Iddio mio sapientissimo, Iddio mio amoroso, Iddio mio giocoso, Iddio mio pietoso, Iddio mia ricchezza, Iddio mia dolcezza, Iddio mia fortezza, Iddio mio tutto fuoco, Iddio mio tutto gioco, il mio cor sia il tuo loco, Iddio mio ogni cosa. In voi l'alma riposa che di voi si è fatta sposa. Tu come mi amado las montagnas, le Deus meus et omnia connaît également, avais-je commencé par dire, plusieurs traductions qui intéressent les variations européennes de l'expression mystique, nous pouvons l'affirmer en conclusion de ce parcours. Les vers que je viens de citer en contiennent deux, Iddio mio ogni cosa, et dans les plis des courts énoncés, une autre moins évidente, Dio mio tutto fuoco, Dio mio tutto gioco, tout feu, tout jeu. Ce que Jean de la Croix avait développé dans un commentaire, ce mystère de la figure, ce partage secret entre l'être et le dire, cette réversibilité et cette simplicité du verbe et de la chair qu'a chanté Jean de Saint-Samson, Carlo da Sezze le condense ici dans le procédé le plus archaïque, le plus moderne de la production du sens poétique, le jeu de mots. Pour humble que soit le serment des mystiques, il est, au seuil d'une modernité qui célébrera longtemps l'explication rationnelle et scientifique du monde, une science savoureuse du langage et un refuge privilégié de la poésie. Je vous remercie.
Je remercie très vivement Benedetta Papacelli pour cette ouverture et ces prolongements à l'aube de la saison cartésienne, comme elle dit, et sa communication ouvre, me semble-t-il, à la fois des liens avec ce qui s'est dit précédemment et beaucoup de pistes de débat. Je note notamment la manière dont vous avez dégagé cette espèce de modèle de vie d'illettré, illettré réel ou pas, associé à la simplicitas, qui ne sont pas forcément des simplici, mais des gens qui font le choix de la simplicitas. Et puis je suis frappée de la manière et de la clarté avec laquelle vous nous donnez cette idée de la traduction des textes comme moteur de diffusion, mais de diffraction aussi, de diversification, et de voir comme ça la traduction, non pas comme un procédé de mise à disposition, mais bien d'une certaine manière comme l'accueil et l'assimilation d'un texte par une langue et son système de pensée, qui ne sont pas du tout les mêmes finalement en France et en Italie. Dans ces décennies, des années 1620, je trouve ça extrêmement... Enfin, ça donne beaucoup à réfléchir, bien sûr. Et puis enfin, je pense qu'il peut aussi poser à Madame Papacelli des questions sur ce défi de la langue mystique qui échappe, qui bute, qui arrive au point de rupture, avec ces questions de syntaxe bousculées et qui sont des défis à la traduction, mais aussi cette profondeur métaphorique dont on ne sait pas toujours comment l'interpréter, et cet équilibre... qui interroge évidemment les musicologues, parce que quand on vous entend lire, évidemment le rythme, la répétition, la musicalité surgit immédiatement. Et bon, là on rejoint des questions qu'on aurait envie de poser aussi à Bernard Dompnier sur ces musiques d'une certaine manière réduites, extrêmement sommaires mais extrêmement porteuses en même temps, enfin sur une efficacité en fait du rythme, du vers et de la musique qui était apparemment dont la réception est à considérer, même si elle nous échappe, parce qu'on est victime d'une histoire philologique un peu rigide et attachée aux musiques écrites. Mais là, il y a vraiment une interrogation qui me semble-t-il, relie vos communications, en tout cas d'un point de vue d'un historien de la musique. C'est tout à fait frappant et intéressant. Merci beaucoup. Merci.
Merci.
Donc, je suggère...